devient-on spécialiste de la dette? Pourquoi se passionner pour la dette?
Alors, je me suis passionnée pour la dette parce que je considère que c'est un sujet absolument essentiel. On voit aujourd'hui qu'on a, et ça c'est avant la crise, 230 milliards de dettes. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est des chiffres qui sont suffisamment importants pour être absolument essentiels et pour qu'on se pose la question de ce qu'on en fait. Et il y a également la question morale de la dette qui m'a toujours beaucoup intéressée. Est-ce qu'on doit rembourser toutes ces dettes ou est-ce que, et c'est la crise que nous traversons actuellement nous permet de nous poser cette question, est-ce que nous devons rembourser ce qui est dû ou est-ce qu'on doit se concentrer sur le fait de dépenser l'argent pour des dépenses de santé, des mesures d'urgence, acheter des masques et ce genre de choses?
Au risque
Voilà.
de laisser nos petits-enfants payer, rembourser cette dette. Mais on en parlera dans un instant. Tout d'abord, une question à propos de la situation en France. Édouard Philippe a évoqué, et la Banque de France aussi, la récession dans laquelle nous nous trouvons. Le produit intérieur brut a perdu 6% au premier trimestre. En Allemagne, il n'y a pas que la France. En Allemagne, les prévisions, c'est moins 10% au deuxième trimestre. C'est la pire crise depuis quand? Depuis 1929. Et c'est la pire crise économique, Anne-Laure Kichel, parce que tous les pays sont touchés en même temps, ce qui est inédit.
Absolument. C'est une crise vraiment sans précédent. Il est très, très difficile de faire une comparaison. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a aucune bonne comparaison. Pourquoi cette crise est sans précédent? Elle l'est par son ampleur. Elle est inédite aussi par sa nature. De temps en temps, on compare cette crise à la crise de 2008, mais ça n'a rien à voir. Elle touche l'économie réelle et ce n'est pas encore une crise financière. Elle est aussi inédite par sa brutalité, puisqu'il y a une menace d'une chute de près d'un tiers du commerce mondial. C'est difficile à estimer, mais on se dit qu'il est possible qu'il y ait une hausse de 25% des défaillances d'entreprises. Vous avez 10 millions de nouveaux inscrits au chômage aux États-Unis en moins de 2 semaines. Enfin, c'est des chiffres que l'on n'a jamais vus en termes de brutalité, de rapidité, et encore une fois, parce qu'en effet, ça touche absolument toute la planète.
Anne-Laure Kichel, à l'échelle française, comment empêcher, il y a déjà un salarié sur quatre au chômage partiel, comment empêcher, si la crise dure et il semble qu'elle soit amenée à durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comment empêcher des faillites en rafale, comment empêcher des licenciements secs, comment empêcher des milliers ou des millions de chômeurs du désespoir, comment empêcher tout ça?
Alors, ça ne peut être qu'une réponse de court terme. Et d'ailleurs, le sujet du chômage doit certainement se traiter par phase. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est le fait que la plupart des entreprises ont recours à l'activité partielle. Et c'est certainement la bonne solution à court terme. Les accords de solidarité, par exemple, qui ont été signés chez Renault, chez Peugeot, correspondent à ce que l'on peut faire, en effet, dans le court terme, et c'est certainement de bonnes mesures. Maintenant, bien sûr, en sortie de crise, les entreprises les plus fragilisées n'arriveront pas toutes à se remettre, à maintenir les emplois. Il ne faut pas se raconter d'histoire par rapport à ça. Et il y aura donc une augmentation mécanique du chômage. Évidemment, on ne peut pas accepter cette fatalité. Donc, ça sera certainement le rôle de nous tous, de l'État, de trouver des moyens pour soutenir ceux qui vont malheureusement se trouver dans cette situation. Et là, il y a plusieurs remèdes, il y a plusieurs possibilités. L'Espagne, par exemple, pense au revenu universel. Les Américains parlent beaucoup de ce qu'on appelle le helicopter money, et qui sont d'ailleurs en train de mettre en place d'ores et déjà en première phase. Donc là, il y a après plusieurs réponses possibles. Mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est que ça ne soit qu'une phase de transition. Et donc, il faut surtout, et d'ores et déjà, et dès maintenant, penser aussi à l'économie d'après. Parce qu'on voit bien qu'il va se passer des choses différentes. On voit bien qu'on va rapatrier une partie de nos productions. On voit bien que dans le secteur de la santé, les choses ne vont pas être à l'identique. Et donc, il va y avoir dans ces secteurs-là des créations d'emplois. Le plus vite on est capable de les créer, le plus vite on est capable d'aider les gens qui seront dans cette situation compliquée à se transférer vers ces nouveaux secteurs.
L'État va dépenser sans compter pour protéger ses citoyens, pour permettre. Il jouera une sorte de rôle de bouclier. Avec quel financement? Est-ce qu'il faudra que l'État diminue les dépenses publiques ou augmente les impôts? Qu'il y ait plus de solidarité de la part de tous?
C'est le grand débat. Je crois que, alors, évidemment, la réponse est différente par pays. Mais si on prend des pays comme par exemple la France, dans lequel il y a déjà une pression fiscale extrêmement importante, et on a bien vu combien elle pouvait choquer et combien elle pouvait, les révoltes qu'elle pouvait entraîner, il est assez utopique de penser qu'il peut être une bonne solution d'augmenter les impôts. C'est évidemment pas la bonne solution. Mais à contrario, diminuer les dépenses publiques, et certains voulaient le faire dans le secteur de la santé, on a bien vu que ça avait aussi ses limites. Donc là également, il n'y a finalement que deux vrais leviers sur lesquels on peut jouer.
Lesquels?
Un, qui est le fait de s'endetter. Et même si on peut considérer qu'il faut faire attention avec l'endettement, il n'y a pas le choix. On ne peut pas ponctionner ça chez les citoyens. Et la deuxième des choses, et la plus importante, c'est de savoir bien allouer les fonds qu'on lève à des dépenses qui soient productives pour le citoyen. Et donc que ce qu'on doit allouer à la santé soit bien alloué à la santé, à l'éducation, dans ces bonnes dépenses, et même chose pour la recherche. Enfin, ce doivent être des postes dans lesquels on ne peut pas ne pas avoir les moyens.
Sanctuariser les biens communs, comme on dit. Anne-Laure Kichel, une banque que vous connaissez, la banque Natixis, a publié une note il y a 10 jours qui disait, je synthétise, on s'achemine du fait de cette crise vers la fin du capitalisme néolibéral. Est-ce que ça veut dire, c'est étonnant de la part d'une banque, qui n'est pas une banque de gauchistes. Est-ce que ça veut dire que on accrédite totalement le fait que l'État revient et l'État est le premier joueur dans le rôle de toutes les économies mondiales, ou devrait l'être?
La période en effet qu'on vit est assez intéressante, parce que tout le monde semble redécouvrir le rôle de l'État et ce que l'État doit être. Quand on reprend juste et quand on revient aux bases, l'État doit en effet jouer le rôle de protéger ses citoyens. Et protéger ses citoyens, ça veut tout autant leur dire donner les opportunités. C'est l'éducation, la formation, les protéger, les policiers, la justice, et aussi les protéger en termes de santé. Et donc, ça a toujours été le rôle de l'État. Ce sont les fonctions régaliennes de l'État. Et j'ai évidemment laissé les sujets de défense aussi de côté. La question, c'est dans quelle mesure l'État doit faire face à ses obligations. Et c'est ça, après, où des pays ont pu donner des réponses différentes. Certains pays ont une approche maximaliste, d'autres ont une approche minimaliste. Mais il va bien falloir qu'on redécouvre et qu'on redise quel est le bon curseur. Ce qui doit être une décision que tous les citoyens doivent être capables de pouvoir prendre et adhérer.
Une dernière question à propos de l'Europe, Anne-Laure Kichel. Des discussions vont encore se passer entre les 27 cette nuit, je suppose, puisqu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et qu'il y a cette fracture béante entre le Nord et le Sud. En gros, les pays les plus riches, solides, bien portants, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, ne veulent pas mutualiser la dette en faveur des pays les plus fragiles. Est-ce qu'il y va de l'existence de l'Union européenne d'un point de vue de la solidarité, de l'éthique?
Je crois, et ça j'avais malheureusement pu le voir et le constater déjà dans les réunions d'Eurogroupe qui s'étaient tenues sur la Grèce, il y a des positions qui, au fil des années, entre les pays, se sont figées en termes de posture. Et il est très difficile pour certains d'entre eux d'aller au-delà des postures et en effet de réaliser que l'Europe est en jeu. Finalement, la réponse technique qui sera choisie est finalement peu importante. Des experts, des techniciens, il y en a tellement qui sont capables de trouver les bons instruments. La vraie discussion, c'est la volonté politique d'arriver à trouver une réponse commune et une réponse européenne. Et celle-là, elle passe obligatoirement par une solidarité. Et donc, que ce soit ce qui agace beaucoup les Allemands, un coronabond, ce que soit d'autres choses, ce sont des réponses techniques. Si on dit qu'on veut être solidaire, il y a les instruments pour être solidaire. Si l'on ne veut pas être solidaire, en effet, ça voudra dire quelque chose de fort sur l'Europe.